Ce produit fait partie du quotidien de 2 millions de femmes en France. Ce sont des contraceptifs qu'on appelle plus simplement la pilule. Pour que les femmes puissent aujourd'hui se les procurer facilement en pharmacie, il a fallu que leurs mères et leurs grands-mères se battent farouchement. Tout commence en 67, quand Lucien Neuwirth présente un projet de loi pour libéraliser la contraception. Une libéralisation qui ne plaît pas à bon nombre de ses collègues députés, comme le prouve ce morceau choisi.
Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile.
Quand nos grands-mères se mettaient en ménage, on leur disait, ma fille, sois bien sage, sois soumise à ton mari, mais au monde, une grande famille. Les enfants que Dieu t'envoie, accueille-les dans la joie.
Ce mouvement a émergé en 1956 sous sa forme, je dirais, publique, c'est-à-dire par la création d'une association qui s'appelait la Maternité Heureuse, ce qui déjà donne la signification du contexte, puisque on prend un titre qui n'est pas provocateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Un titre très susceptible de susciter un consensus. Alors, ce mouvement est créé par le docteur Marie-André Lagroix-Veyalé, qui a vu des expériences donc d'aide à la contraception à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui a été surtout très bouleversé par l'histoire d'un couple, et notamment d'une femme, ayant des enfants qu'il ne pouvait plus, qu'il ne pouvait pas assumer, finalement, délaissé son dernier enfant et s'est retrouvé devant les juges. Et donc, Marie-André Lagroix-Veyalé a vraiment décidé qu'il fallait donner aux femmes les moyens de maîtriser leur procréation. Donc elle crée avec d'autres personnes, avec notamment Evelyne Sulraux, une jeune protestante, mais aussi aidée par le docteur Pierre Simon, qui est franc-maçon et qui est gynécologue obstétricien. Donc Marie-André Lagroix-Veyalé crée en 1956 la Maternité Heureuse. Et cette association va devenir seulement en 1960 le mouvement français pour le planning familial. À ce moment-là, arriver une nouvelle étape, c'est-à-dire que le planning familial va ouvrir des centres à partir de 1961. Le premier est ouvert à Grenoble en 1961, puis tout de suite à Paris. Va ouvrir des centres où les femmes seront reçues et auront des moyens d'accéder à la contraception dite moderne, essentiellement le diaphragme d'ailleurs à cette époque, mais à condition de devenir membre de l'association. Il s'agit de contourner la loi pour ne pas effectivement tomber sous le coup de cette loi. On considère que on peut donner des informations dans un cercle qui est d'une certaine façon privé, puisque c'est donné aux adhérentes de l'association. Et donc les adhérentes de l'association, c'est un petit parcours du combattant quand même, elles se rendent dans les centres, là on les envoie chez un médecin gynécologue qui prend leurs mesures pour qu'elles puissent commander un diaphragme en Angleterre, parce qu'il ne se fabrique pas en France évidemment, c'est interdit. Donc, elles doivent commander leur diaphragme en Angleterre, commander la gelée spermicide, là en France, c'est possible. Et surtout, quand je suis passée par là, donc je peux vous raconter les choses de façon très concrète. Quand on commandait un diaphragme en Angleterre, on envoyait un mandat en même temps pour le payer, évidemment. C'est pas gratuit, hein, tout ça. Et on nous disait, surtout, vous ne mettez pas dessus que c'est pour commander un diaphragme, vous mettez commande de livre. Voilà. Donc on mettait commande de livre et on envoyait à une adresse X, etc., avec le papier des mains, enfin avec les indications des médecins, etc. On envoyait ce mandat. Et donc, on recevait son diaphragme et par un autre canal, sa gelée spermicide. Voilà. Tout ça était quand même pas très, très, très facile. Mais ça a permis à quand même pas mal de femmes d'avoir un moyen contraceptif qui était quand même assez efficace, même s'il était un peu contraignant, mais quand même assez efficace. Donc, le planning familial a continué à œuvrer pour, cette fois, demander aussi l'accès à la pilule, au stérilet, enfin aux nouvelles méthodes qui arrivaient. Et c'est seulement après donc bien des bagarres et bien des difficultés que en 1967 a pu être votée la loi dite loi Neuwirth qui légalise enfin la contraception. Lucien Neuwirth, de son côté, qui avait été un très jeune résistant, qui était allé en Angleterre, avait été très intéressé en Angleterre par le fait que les femmes avaient accès à des moyens contraceptifs. Il avait été aussi très marqué par le fait que, quand il était revenu en France, il avait appris le suicide d'une fille qu'il connaissait, qui s'est suicidée parce qu'elle était enceinte et rejetée par sa famille, enfin, dans des conditions assez dramatiques. Donc, psychologiquement, il était tout à fait préparé pour recevoir cette demande du docteur Pierre Simon. Et c'était important que ce soit lui qui dépose cette proposition de loi, parce que c'était un gaulliste. C'est pas quelqu'un de gauche, c'était un gaulliste. Or, à l'époque, était au pouvoir donc encore le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, dans un premier temps, quand on lui avait parlé des problèmes de contraception, il avait dit « la contraception, c'est comme l'automobile, c'est pour l'amusement ». Donc, on tient à notre compte. Puis quand même, un jour, il a dit à Lucien Neuwirth « Lucien Neuwirth, il va falloir que vous veniez me parler d'autre affaire ». De Gaulle, finalement, a été convaincu. Donc, Lucien Neuwirth a pu déposer sa proposition de loi. Mais quand je vous disais que ça a été voté non sans mal, c'est-à-dire que c'est un rare cas dans l'histoire, je dirais, législative française, d'une loi qui a été votée à main levée. Parce que habituellement, on vote et les noms des votants sont inscrits au journal officiel. Et là, un certain nombre de députés de droite ne l'auraient pas voté en se disant. Si mes électeurs la prennent, ça ne va pas forcément leur plaire dans les campagnes profondes, etc., etc. Ce qui sous-estime totalement l'état d'avancement des mentalités en France, parce qu'au contraire, les gens ont été plutôt contents d'avoir enfin la possibilité d'accéder à la méthode contraceptive. Donc le vote a eu lieu à main levée, ce qui fait qu'on n'a pas la liste des personnes, les noms des personnes qui ont voté pour cette loi. Apparu au grand jour, ce qu'on a appelé le MLF, c'est-à-dire le Mouvement de Libération des Femmes, et qui a fait de la légalisation de l'IVG son cheval de bataille. Plus, il faut ajouter l'aide, effectivement, des partis de gauche, des syndicats de gauche, des associations, d'un nombre d'associations féministes, mais tout cela a convergé pour qu'on arrive à un moment où la situation de l'interdiction de l'avortement devient intenable, puisque le MLAC, le Mouvement de Libération pour l'Avortement et la Contraception, qui a été fondé en 1973, faisaient des avortements quasi publics et sans être inquiétés. Et il y a eu d'autres étapes avant, 1971, le manifeste des 343 femmes disant qu'elles avaient avorté, 343 femmes qui se sont appelées après par dérision, les 343 salopes. Donc le planning familial, lui aussi, dans ces années-là, a déclaré qu'il pratiquerait des avortements, ce qui a provoqué une bagarre au sein du planning parce que les médecins n'étaient pas d'accord, alors que la base, notamment les hôtesses, étaient beaucoup plus radicales. Mais il y a des médecins également qui ont signé un manifeste disant qu'ils avaient pratiqué des avortements. Enfin, disons que cette année 73 a été très très fructueuse pour ce qui est de la mobilisation sur cette question. Et puis il y a eu un événement qui a en fait changé la donne, c'est-à-dire qu'en 1974, le président Pompidou est mort. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est devenu président de la République. Alors Giscard avait décidé de décrisper la France et de faire une politique favorable aux femmes. Et donc, il a nommé Simone Veil ministre de la Santé avec pour mission de préparer un projet qui permettrait donc de légaliser l'IVG. Alors il fallait voir sous quelles conditions, etc.
Ni juge, ni médecin, ni mari, personne ne décidera pour nous. Nous voulons la liberté complète de l'avortement.
Simone Veil, quand elle était arrivée au ministère, elle était plutôt favorable à un délai de 12 semaines et au remboursement par la Sécurité sociale. Mais les médecins, les grands patrons de médecine se sont totalement insurgés contre cette idée de 12 semaines en disant que non, entre 10 et 12 semaines, changer de méthode, etc., et que, bon, c'est pas possible, enfin, que c'est très difficile, bon, c'est avéré après que ça n'était pas, mais enfin, voilà, il y a eu un barrage du corps médical sur ce point-là, et puis, elle a reçu un nombre incalculable de lettres d'assurés sociaux disant qu'ils ne voulaient pas que leur cotisation sociale serve à payer des avortements, donc, et que si l'IVG devait être remboursé par la Sécurité sociale, ils ne paieraient plus leur cotisation. Enfin, bon, il y a eu des tas de choses qui sont passées. Enfin, quand même, la loi a été votée, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a été votée par tous les parlementaires de gauche, à une exception près, il y en a un qui ne l'a pas voté, et par une petite partie seulement de la droite, alors que c'était la droite qui était au pouvoir à l'époque, et que Simone Veil représentait la droite centriste, mais quand même les pouvoirs publics, parce que il y a eu des oppositions avec des arguments. Il y a eu l'argument démographique, c'est-à-dire notre population vieillit et notre renouvellement démographique n'est pas assuré, alors que au sud et à l'est, il y a une natalité galopante et que, au fond, enfin, ce qui était sous-entendu, ils vont venir nous envahir. Donc il y avait ça. Il y avait un argument religieux qui était on ne peut pas comme ça supprimer l'œuvre du Créateur, n'est-ce pas ? Il y avait un argument moral disant que si, comme on l'avait vu d'ailleurs pour la contraception, hein, qu'une flambée inouïe d'érotisme allait s'abattre sur le pays, que si, où il y avait même un parlementaire qui avait dit que si on acceptait l'IVG, ça allait réveiller l'animal qui sommeille en chacun de nous. Enfin, il y a eu des arguments, j'en passais des meilleurs, mais vraiment absolument terrifiants pour essayer de lutter contre ce qui était quand même de plus en plus accepté et demandé par tout le monde. Mais cette loi finalement a été votée. Et à partir de là, le planning familial a vraiment pu se livrer à son travail, il le faisait déjà avant, mais vraiment son travail d'information sur la contraception, de consultation de contraception, et aussi de consultation sur quoi faire si on se retrouve enceinte contre son gré.
Non. tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Oui, je m'appelle Suzanne Bruxell. J'ai 90 ans. Et depuis toujours, j'ai eu envie de faire quelque chose pour les femmes. C'est dans ma nature, quoi. C'est comme ça. Alors, j'ai travaillé à l'aérospatiale pendant 6 ans comme aide chimiste. Où j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Kepes, qui faisait partie du planning familial. Elle ne m'en a pas tellement parlé à ce moment-là, mais j'ai eu l'occasion de la revoir chez des amis communs. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire une formation au planning familial ? J'ai dit, d'accord, d'accord. Et pendant 3 ans, avec quelques personnes des Mureaux, une ou deux, mais elles n'ont pas continué, plus à Mantes, on allait à Paris. On suivait les informations, on suivait les permanences qui commençaient à se faire à Paris. Et on a fait des stages, c'est-à-dire qu'on est allé pendant 8 jours à Grenoble, on est allé pendant 8 jours à Nantes, on est allé à Versailles, on a couché dans une petite cellule de moine. Enfin bon, c'était... Mais on a eu beaucoup, beaucoup d'informations à ce moment-là, quoi. Et après, on a commencé à faire des réunions de quartier, jusqu'à temps que le groupe femmes me dise « ce serait bien qu'il y ait un centre aux Mureaux ». Alors là, à partir de là, on a commencé à avoir des cas vraiment difficiles, douloureux, des très jeunes qui disaient « bon, j'ai peur d'être enceinte, je voudrais des pilules ». On avait 2 médecins à Mantes et 1 médecin aux Mureaux. On a fait les premières IVG par aspiration. J'ai le petit matériel, là, je vous montrerai.
Vous pouvez me montrer ça ? Vous avez les papiers, vous avez déjà prévu les papiers ?
J'ai sorti parce que l'année dernière, à la médiathèque, il y a eu une réunion de femmes, justement, pour le 8 mars. Et alors, j'avais sorti tout le petit matériel, les préservatifs, les pilules. Et alors, le matériel qui servait à faire des aspirations, vous voyez, c'est rien du tout. Il fallait que ce soit fait absolument dans les premières semaines de grossesse. Et c'est gros comme un œuf, comment on appelle ça, un germe dans un œuf. Mais les premières semaines. Hein.
Alors ça, vous l'expliquiez dans les années 80, au début des années 80, quand voilà. Des femmes se présentaient à vous au planning familial des Mureaux. Oui. Là, vous me montrez, vous sortez une seringue, une espèce de oui. Seringue que vous avez dans les mains. Et vous expliquiez donc aux femmes...
On expliquait qu'on faisait une simple aspiration, c'était très rapide, ça donnait presque rien. C'était... Mais enfin, il fallait que ce soit fait absolument dans le début, hein. Vraiment quelques jours de retard de règles. Et puis, on avait commencé avec le docteur Silbert à Mantes, hein. C'est des femmes de Paris qui sont venues montrer la méthode. J'ai même emmené un médecin des Mureaux, enfin c'était vraiment l'époque héroïque, parce que c'était interdit, hein. Mais... Après, je sais pas, j'ai des documents là qui montrent Madame Bell comment elle s'est battue. J'étais à l'Assemblée nationale aussi au mois de novembre 1974 pour pour voir ce qu'elle disait, comment ça s'est passé.
Mais parce que là, dans les années 80, c'était autorisé, l'IVG avait été autorisé.
On avait commencé avant. Parce que je vous dis, c'est en 1974 que je suis allée à Paris voir le débat de Madame Bell.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Des belles choses, là. Vous voyez, ça, je garde ça comme un trésor.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est mon billet d'entrée à l'Assemblée nationale.
Quand ça?
Eh bien, c'était le 27 novembre 1974.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme? Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non.
Donc il y a plus de 55 ans maintenant, s'est créée sur la question de la contraception et on doit dire que bien sûr les choses ont évolué quand même, mais que ces questions restent d'actualité puisqu'on a vu qu'il y a eu un rapport en 2009 de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui traitait de l'application de la loi de 2001 sur contraception, avortement, éducation et sexualité et qui montrait que encore aujourd'hui, alors que tout le monde pensait que tout ça c'était des questions réglées, que la question de l'accès à la contraception, des connaissances sur la contraception, de l'autorisation que se donnent les filles et les garçons, leur participation à la contraception, toutes ces questions restaient extrêmement d'actualité et qu'il fallait sans cesse reposer ces questions, rediscuter, et que dans le contexte d'aujourd'hui, à la fois l'accès à la contraception et l'accès à l'avortement restent des luttes d'actualité. C'est pas du passé et c'est pas des vieilles rengaines féministes d'autrefois, mais c'est des choses tout à fait d'actualité. Et on voit d'une part, parce que sur la question de l'avortement, on a depuis la loi de 75 des mouvements qui sont assez offensifs contre cette loi. Alors ça a été spectaculaire, à un moment ils s'enchaînaient devant les lieux des interventions de IVG, mais actuellement, si vous faites IVG sur Internet, en première ligne, vous tombez sur un site anti-avortement, et donc ils ont un peu recyclé leur façon de faire, mais ils sont extrêmement mobilisés, vigilants sur ces questions-là, et ça reste une bagarre. On sent que cette question de la maîtrise de la fécondité et du choix d'une femme d'avoir ou pas un enfant restent des enjeux sociaux aujourd'hui toujours aussi importants, ce qui peut paraître surprenant, mais ça montre qu'il y a encore des choses à défendre et des bagarres à mener pour maintenir l'accès à la contraception et à l'avortement.
Quels droits ont émergé, quelles revendications ont émergé par la suite après ces deux luttes-là?
Alors je crois que ces luttes, elles sont importantes, pas seulement en soi, mais parce que ce qu'elles représentent comme possibilité d'accès à une situation d'égalité entre les hommes et les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu avec les derniers événements médiatiques où on a pu constater que l'égalité au sein du travail, c'était pas ça, que les questions des violences restent extrêmement fortes et que les violences faites aux femmes restent encore socialement acceptées. Et qu'il faut vraiment du courage aux femmes qui sont en situation de victimes de violence d'aller porter plainte et d'affronter le regard social qui
met toujours un doute sur leurs paroles, en première ligne. Ensuite, quand les faits sont là, bon, bien sûr, les lois ont évolué, il y a eu des avancées. On est dans un contexte avancé, mais on sent que socialement, il reste des résistances sur l'égalité, sur la parole des femmes et sur la question de la domination masculine qui reste encore bien forte. Yes, you think about woman is the nigger of the world. Think about it, do something about it. Alors, autant il y a eu une libération un petit peu des mœurs par rapport aux années 56, 68 est passé par là, les années 70 et le féminisme et les luttes pour les femmes pour disposer de leur corps, pour la contraception, pour la possibilité d'avorter quand elles le souhaitent et de choisir leur maternité ou pas. Donc il y a eu tout ça. Pour autant, quand on travaille avec des jeunes, on se rend compte quand même que il y a encore des stéréotypes très très marqués entre garçons et filles. On travaille beaucoup sur la relation garçon-fille et on est encore sur des rôles assez traditionnels par rapport à ce qu'on a vécu nous il y a un certain nombre d'années. Alors beaucoup moins, il y a beaucoup de choses qui ont avancé bien sûr, mais il y a des résistances très fortes à la fois des filles qui intériorisent quand même le fait qu'elles n'ont pas les mêmes capacités que les garçons, qu'elles n'ont pas peut-être pas exactement le même avenir en tête. Et puis voilà, la maternité prend beaucoup de place et peut-être obère un petit peu. Il y a des injonctions à la maternité et il y a une déresponsabilisation surtout des garçons en ce qui concerne la relation et la relation sexuelle en particulier. Déresponsabilisation qui perdure au niveau des adultes. We make a paint a face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Nous pouvons répondre aux questions concernant la sexualité, la contraception, les IVG, le sida, les viols, les violences, les mariages forcés, l'excision, etc. Si vous êtes enceinte, que vous avez dépassé ou pas le délai légal et que vous voulez interrompre votre grossesse, venez à la prochaine permanence du lundi soir entre 18h et 20h sans rendez-vous. Nous répondrons à vos questions et nous vous expliquerons les démarches à suivre. Merci et au revoir.
Chez nous, les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, parce que quand même, il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, les femmes viennent en majorité pour des questions de contraception et d'IVG.
L'avortement est permis donc, en France jusqu'à 12 semaines et 14 semaines d'aménorrhée. Mais quand le délai est dépassé, là, elles sont très ennuyées et on les envoie, l'hôpital ou la clinique les envoie chez nous, au planning familial. Et nous, on leur donne des possibilités, des solutions pour avorter à l'étranger.
La plupart du temps, c'est ça. Alors après, c'est très facile de dire ça et c'est très c'est schématisant, si tu veux. Parce que beaucoup, derrière ces questions de contraception et d'IVG, il y a d'autres choses derrière. Mais d'autres choses qu'on ne peut pas dire comme ça en arrivant. On ne peut pas arriver et puis dire, ah ben moi, voilà, moi je vis ça, moi ma mère ne m'a jamais aimée, ou moi mon mec me bat, ou moi... On ne peut pas arriver à le dire tout de suite comme ça. Donc souvent, c'est des premières choses, et après... Suivant l'accueil qu'elles trouvent et suivant l'écoute qu'elles trouvent, elles disent le reste.
La première chose, c'est toujours de partir ce que vivent les gens. Si on arrive en expliquant ce qui est bien ou ce qui est mal, on part déjà très mal parce qu'on va se heurter à un discours, surtout si les gens ne nous reconnaissent pas comme faisant partie de leur histoire, en disant « oui, mais chez nous » ou « vous ne pouvez pas comprendre », etc. Et je pense que ce qui est important, c'est de partir avec les gens avec qui on travaille, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, sur ce qui se passe, comment ils voient les choses, pourquoi, et d'essayer de cheminer avec eux pour « est-ce que peut-être ils n'auraient pas à gagner à changer légèrement leur point de vue, à essayer de voir d'autres façons de voir les leur faire découvrir peut-être d'autres façons de voir. Ce qu'on aime bien, nous, souvent, c'est travailler sur les rapports garçons-filles, par exemple, en groupe séparé. Par exemple, en leur proposant qu'est-ce que vous pensez que doit faire un homme, qu'est-ce que vous pensez que doit faire une femme, ou qu'est-ce que vous pensez que les femmes attendent de vous, et qu'est-ce que vous pensez. Et on se rend compte souvent, et ensuite on les remet ensemble, et on discute. Et on essaie de refaire du lien et d'essayer de casser un peu cette séparation qui se crée avec l'ambiance, avec une certaines idées sur les garçons et les filles, c'est pas la même chose, c'est séparé, etc. Pour casser ça, il faut construire autre chose et proposer autre chose dans lesquelles chacun peut se retrouver. Tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Tell her not to be so smart, we put her down for being so dumb. Oh.